quand on pense que la vie nous appartient, qu'on l'a entre nos mains et tout ça, alors on est parfois arrogant, parfois on est ronchon, ça ne nous va pas comme on veut, etc. Mais quand après vous réalisez que la vie est un cadeau, ben vous devenez plus bienveillant, j'allais dire. Vous dites finalement, je ne devrais pas être là, c'est une grâce si je vis ce que je vis. Hein. Et donc ce soir, ben, c'est pour moi un moment de grâce et un cadeau. J'espère que ce sera un cadeau pour vous. J'aimerais donc venir à ce sujet, en revenir à ce sujet, le cap de la foi, garder la bonne direction que Dieu a donnée. Et cette direction, c'est celle de la foi, avec en finale l'espérance de la vie et de la gloire éternelle. Quand Dieu a appelé Abraham, au chapitre 12 de la Genèse et dans les chapitres qui suivent, il lui a annoncé ce qu'il allait faire. Comme un bon coach, Dieu lui a donné une vision. Il lui a donné une vision, il lui dit voilà, je vais bénir ta postérité, elle deviendra aussi nombreuse que le ciel de la terre. Et le pays dans lequel tu es, eh bien, il appartiendra à cette postérité. Depuis la frontière de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, nous est-il dit. Et c'est arrivé sous les règnes de David et Salomon. Et donc Abraham a marché avec ça. Il n'a pas vu grand-chose de la vision de Dieu. Parce qu'il avait 100 ans quand son fils Isaac est né. Et Isaac s'est marié à 40 ans. Mais sa femme Rebecca ne pouvait pas avoir d'enfant. Il a prié, Isaac a prié, et les enfants sont nés 20 ans plus tard. Donc Isaac avait 60 ans et Abraham en avait 160. Et Abraham est décédé à 175. Donc sur les étoiles que Dieu lui a promises, il a vu son fils Isaac, ses petits-fils, Ésaü et Jacob. Et encore, je ne sais pas s'il les a vus parce qu'il avait la vue affaiblie, mais en tout cas, il les a connus. Il n'a pas vu grand-chose de la promesse de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'Abraham a eu confiance en Dieu. Il y a cru. Il a cru que ce que Dieu avait promis, il allait le faire. Et la Bible nous dit que parce qu'il a cru, parce qu'il a eu confiance, Dieu l'a déclaré juste. Abraham n'était pas parfait. D'ailleurs, quand on regarde sa généalogie, son histoire racontée dans la Genèse, on voit bien qu'il y a des moments d'errement, de tâtonnement. Quand il est allé en Égypte et qu'il a dit que sa femme, c'était sa sœur, c'était pas à son avantage quand même. Il a cherché à sauver sa peau et sa tête. Au détriment de sa femme. Bien sûr, il connaissait les mœurs du Moyen-Orient et de l'Égypte. Et il ne l'a pas fait une fois, mais il l'a fait deux fois en plus. Donc, Abraham a eu ses tâtonnements, il a eu ses errements, et Abraham n'était pas parfait. Mais parce qu'il a fait confiance à Dieu, Dieu l'a déclaré juste. Et pour toutes celles et qui croient en Jésus-Christ et qui se réconcilient avec Dieu, ils ne sont pas parfaits, loin de là, mais Dieu les déclare justes. Amen. Et c'est là qu'on voit, on mesure la grâce que Dieu nous a faite. Il pourrait nous faire des reproches tous les jours. Il pourrait nous rappeler tout ce qui ne va pas. Et nous n'irions pas à la réunion de prière avec tranquillité. Parce qu'on disait, oh, si le Seigneur encore me sort les affaires, les dossiers de la semaine passée ou d'il y a 15 jours, comment vais-je pouvoir prier avec assurance? Mais le sang de Jésus nous a lavé et purifié de tout péché. Et le sacrifice de Jésus est suffisant pour l'expiation de nos péchés. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est Dieu qui les déclare justes. Alors si Dieu le dit, qui peut aller à l'encontre de cette parole? Je racontais à notre frère comment à Lavelanet nous avons aménagé la salle, restauré les locaux, et il n'y avait pas de tout à l'égout dans la rue, il n'y avait pas de parking à proximité. Et donc l'ingénieur de la DDE m'a dit, monsieur, il ne faut pas rêver, mais là, ce n'est pas possible de vous donner le permis de construire. Il manque donc le tout à l'égout, il manque des parkings. Alors j'ai répondu à chaque point, pour chaque point, que le maire m'avait dit ceci et cela, etc. Et il a dit, ah ben alors, si le maire l'a dit, c'est mon patron. Et oui, le maire avait dit oui sur tous les points. Et donc, parce que l'autorité avait dit oui, eh bien, l'employé ne pouvait que s'aligner sur la déclaration de l'autorité. Quand Dieu nous déclare juste, qui pourra nous condamner ? C'est l'argument de Paul. Si Dieu nous déclare juste, qui pourra nous condamner ? Donc, vous voyez, c'est important de garder le cap de la foi, parce que c'est cette foi qui nous permet d'être approuvés de Dieu, et c'est cette foi qui nous permet d'avoir la faveur de Dieu. Il nous faudrait lire tout le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, mais ça prendrait trop de temps. Donc on va lire juste les versets 1 et 2. Hébreux chapitre 11, versets 1 et 2. C'est un verset que vous connaissez par cœur. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le verset 2. Pour l'avoir possédé, donc cette foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est ce que je disais au sujet d'Abraham. Dieu l'a déclaré juste parce que Abraham a fait confiance à la promesse de Dieu. Il y a cru et Dieu a versé ça à son compte. Il dit que ça a été imputé à justice. Ça veut dire que ça a été versé sur le compte d'Abraham. Et Abraham a obtenu la faveur de Dieu. Et dans le livre, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, on a toute une liste donc, d'hommes, voire de femmes, qui ont eu la foi, qui ont manifesté la foi et qui ont obtenu la faveur de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Mais quand on regarde cette liste, alors on n'a pas le temps d'examiner tous les cas de figure, mais quand on regarde globalement cette liste, on s'aperçoit que ces gens ont exercé la foi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est comme ça que j'en viens à mon sujet. Il y a divers aspects à la foi, et ça va être facile à retenir. On va citer 5 aspects de la foi. Comme ça, pour ceux qui prennent des notes, c'est facile, hein. 5 aspects de la foi. Tout d'abord, je parlerai de la foi confiante. La foi qui fait confiance à Dieu. Dieu l'a dit, je le crois. Je ne me pose pas de questions, je le crois. Alors pour un Français cartésien, ce n'est pas simple. Hein. Surtout qu'un Français, hein, les Français sont généralement et naturellement pessimistes. Hein. La première chose qu'ils voient, c'est ce qui ne va pas. Et donc ils ont toujours à poser des questions. Et tandis qu'Abraham a cru, et c'est ce que nous sommes appelés à faire, à croire en faisant confiance à Dieu. Cette foi-là, la foi confiante, c'est la foi qui se repose sur la parole de Dieu, qui se repose sur les promesses que Dieu a faites, qui compte sur l'amour et la fidélité, nous en avons parlé hier matin, la nature de Dieu même nous encourage à lui faire confiance. On l'a dit, il est souverain, il nous aime, il est bon, il est fidèle, etc. Il est droit et vrai dans ses paroles. C'est le personnage qui inspire la confiance. Vous savez, il y a des gens, quand vous les croisez et discutez avec eux, vous dites, je me méfie. Je me méfie, je ne le sens pas. Ou je ou là, ça peut être au féminin aussi. Je ne le sens pas, je ne la sens pas, il y a quelque chose là. Je ne peux pas lui faire confiance. Et c'est dans la nature et la personnalité que ça ressort. Eh bien, Dieu, lui, il a une nature et une personnalité qui inspire la confiance. Son amour, sa droiture, sa fidélité, sa bonté, etc., etc. Donc, la foi se repose sur la nature même de Dieu, sur ses attributs, et elle se repose choses, sur ses promesses, sur les paroles qu'il nous a données. Le texte qui pourrait illustrer très bien cette notion de foi confiante, c'est un verset que vous connaissez certainement par cœur, psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Voilà. « Mets en lui ta confiance et il agira. » Remets ton fardeau, remets ton problème, remets ton sort, remets ta vie, remets tes projets, fais confiance au Seigneur. Alors, il ne va peut-être pas agir aussi vite que nous le souhaiterions, parce que nous sommes des gens dressés à l'urgence, comme dit un journaliste dans Le Monde diplomatique, nous sommes des gens dressés à l'urgence. Clic droit, clic gauche, de suite, il faut que l'écran affiche, et on râle quand il faut attendre 30 secondes que ça s'affiche, alors qu'avant, il fallait attendre plus que ça. Mais maintenant, on est tellement habitué à l'accélération et à la vitesse informatique, qu'il faut que tout aille vite. Ce qu'il y a, c'est que Dieu ne s'est pas mis à l'informatique encore. Et donc, lui, il a un calendrier, il a des plans et il suit son calendrier. Alors que c'est parfois pour nous un peu difficile de faire confiance, mais le Seigneur nous y appelle. Donc, Abraham a fait confiance à Dieu alors que la promesse était irréalisable. Sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant pour deux raisons. Pour son âge, elle était stérile. Et pourtant, Dieu lui dit, « Regarde le ciel, aussi nombreuse que les étoiles du ciel sera ta postérité. » J'imagine Abraham, après cette parole de Dieu, rentrant sous la tente et disant à Sarah, « Je viens de recevoir une parole de Dieu. » Peut-être qu'il avait même les yeux qui brillaient. Et s'il lui a dit cette parole, Abraham, peut-être que Sarah lui a dit « Calme-toi, calme-toi, reste tranquille. C'est pas possible, tu sais bien que c'est pas possible. » D'ailleurs, il dit que Sarah a souri, à un moment donné, elle a souri. Et j'imagine que, fort de cette parole, si ça avait été aujourd'hui, eh bien, Abraham et Sarah seraient allés voir le gynécologue en disant « Voilà, nous avons un projet de vie. » Et nous pensons que nous allons avoir une progéniture. Et on ne sait pas comment ça va se passer, mais on va attendre probablement un bébé bientôt. Imaginez, hein, 90 ans pour l'un, 80 pour l'autre. J'imagine, moi, le gynécologue dans sa blouse blanche, derrière son bureau, qui les écoute tranquillement, patiemment, et qui dit, bon, c'est formidable d'avoir à votre âge des projets pour la vie et pour l'avenir, c'est formidable. C'est des situations très rares, très très rares, et vous êtes exemplaires. Mais là, je ne peux pas faire grand-chose pour vous, je vais vous conseiller un collègue qui, lui, travaille plutôt dans la psychologie, et il pourrait certainement vous apporter quelques conseils. C'est invraisemblable. Que Dieu dise à un couple si âgé et à une femme stérile que la postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. C'est quelque chose d'impensable, d'irréalisable, qui devait faire rêver probablement. Mais comment ça pouvait arriver? Nous qui vivons presque 30 siècles, pas tout à fait avant, après Abraham, nous disons que c'est vrai, c'est arrivé. Dieu a tenu parole. Abraham n'a peut-être pas compris comment les choses allaient se passer, mais Dieu a été fidèle. Abraham s'est reposé sur la parole de Dieu, il a fait confiance. Dans le Nouveau Testament, on a un exemple très pratique de la foi confiante, c'est celui de l'apôtre Paul, dans son dernier voyage, qui le menait de Jérusalem à Rome, si vous vous souvenez. Bon, il n'y allait pas de plein gré, il y allait parce qu'il avait fait appel au tribunal, à l'empereur. Il avait des soucis avec les Juifs. Et donc, le bateau l'a emmené. Vous savez qu'en cours de route, entre Chypre et Malte, ça s'est mal passé. Il y a eu une tempête qui a duré 2 semaines au moins. Et il ne voyait ni les étoiles la nuit, ni le soleil le jour. C'était une grande tempête. Et J'imagine qu'au bout de quelques jours, ça, les gens devaient s'inquiéter de leur sort. Et dans une nuit, un ange a parlé à Paul, nous est-il dit, et il lui a dit, « Ne crains pas, Paul, il faut que tu ailles jusqu'à Rome. » Et le lendemain matin, s'il y en avait un qui avait retrouvé l'appétit, la sérénité, la tranquillité, c'était ce fameux Paul. Les autres étaient probablement angoissés, inquiets, qu'est-ce qui allait arriver de leur vie, qu'est-ce que leur vie allait devenir. Et là, Paul dit, « Faites confiance, le Seigneur m'a dit que… » Paul est dans une attitude de confiance et de sérénité. Donc il y a 3 ans, quand j'étais bien malade, le Seigneur m'a restauré, relevé, et après, bien sûr, quand je suis sorti de l'hôpital, beaucoup de gens m'ont demandé, alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as vécu? Comment ça s'est passé dans le coma? Alors là, je ne vous raconterai pas, c'est assez bizarre, d'ailleurs. Et certains m'ont dit, est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as eu peur? Eh bien, je dois dire que non. J'étais dans la sérénité et la paix. J'avais dit, Seigneur, peu importe ce qui arrive, si je dois rejoindre le ciel, c'est une bonne destinée. Si je dois rester sur la terre, eh bien, je resterai sur la terre. Et j'étais dans cette posture-là, dans la confiance. C'est se reposer sur le Seigneur, se reposer sur ce qu'il est et sur ce qu'il a dit. C'est ça, la foi confiante. Même si la tempête gronde, même si ça paraît irréalisable, on se repose sur Dieu et on se dit, c'est Dieu qui a les choses en main et qui va les mener à bonne fin. Le deuxième aspect de la foi, c'est la foi obéissante. Il y a des situations dans lesquelles Dieu nous demande de croire, mais en croyant, il nous demande de faire quelque chose et qui n'est pas facile à faire. Et si on s'écoute, on n'a pas trop envie. C'est la foi qui va nous permettre d'obéir à Dieu et de réaliser ce que Dieu attend de nous. Vous imaginez quand Abraham a entendu le Seigneur lui dire « Il va falloir que tu offres ton fils Isaac en sacrifice. » Alors là aussi, ça paraît complètement déraisonnable. C'est comme une expérience complètement folle. Alors que Dieu avait en horreur les sacrifices des enfants, et il demande à Abraham d'offrir son fils. Pour pas qu'il se trompe, parce qu'il avait Ismaël et Isaac, Dieu lui dit d'offrir son fils, et puis il le nomme bien Isaac. Et ça a dû résonner d'une manière particulière. Et ça a pris plusieurs jours, je crois que 3 jours, il me semble, de voyage, de cheminement. Je ne sais pas s'il a dormi les 3 nuits. Parce qu'Abraham était un être humain de la même nature que nous. Vous vous imaginez aller à un hôtel pour offrir votre fils sur l'autel. Je ne sais pas si on peut dormir la nuit, je me le demande. Et puis à un moment donné, le fils Isaac qu'il faut sacrifier, il fait une remarque qui m'est très mal à l'aise. Il y a le bois, il y a le feu, mais on n'a pas le mouton. Et là, Abraham a une réponse admirable de sagesse. Je ne sais pas si c'est le Seigneur qui l'a inspiré ou si c'est sa sagesse naturelle, mais il s'est bien sorti d'affaire, en tout cas, en disant « l'Éternel pourvoira ». Mais en disant cela, je ne sais pas ce qui se passait dans le cœur d'Abraham. On ne sait pas. Et on sait qu'Abraham est allé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il a même pris le couteau pour offrir son fils en sacrifice. Il est allé jusque-là. Dieu l'a arrêté, évidemment, nous dit le texte. Mais la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux que la foi d'Abraham était telle qu'il pensait que même s'il faisait ce geste d'offrir Isaac en sacrifice, Dieu le ressusciterait. C'est dire s'il croyait dans la promesse de Dieu d'une postérité non aussi nombreuse que les étoiles du ciel. On pourrait prendre dans Hébreux 11 aussi le cas de Noé. Le cas de Noé a été appelé à faire confiance à Dieu et ça a été une foi obéissante. il était animé de la crainte de Dieu. Il est dit qu'il fut saisi d'une crainte en entendant la parole de Dieu, une crainte respectueuse, et il a construit une arche pour sauver sa famille. Imaginez encore la situation là sur la, dans la plaine, loin de la mer. Tu vas construire un bateau de 150 mètres de long, de 25 mètres de large et de 15 mètres de haut. Ben, il faut être architecte à la marine. Hein. Pour construire un bateau de 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut, avec tout l'aménagement intérieur, plus les provisions qu'il fallait faire, enfin, c'était quand même un chantier énorme. Quand on dit, si j'avais vu Noé, s'il m'avait raconté ça, j'ai dit, mais c'est fou. C'est fou. Comme projet, c'est complètement fou. Mais Noé a été animé d'une crainte respectueuse eu égard au Seigneur et à sa parole. Et sa foi l'a amené à obéir à Dieu et à mettre en œuvre ce chantier. Et en le faisant, il a sauvé sa famille. Parce que la pluie est bien tombée, la catastrophe est venue, le cataclysme s'est abattu et l'eau a inondé donc toute la terre, nous est-il dit, et Noé a échappé. La foi obéissante. Alors bien sûr, quand il y a la foi obéissante, Dieu ne demande pas les mêmes choses à tout le monde. Mais s'il met notre foi à l'épreuve, ou notre obéissance à l'épreuve, en général, il va choisir le terrain qui nous coûte le plus, finalement. Jamais le Seigneur va nous demander ce qui est facile. Mais à un moment donné, pour mesurer notre foi et mesurer notre amour, j'en parlerai demain soir, eh bien, Dieu va tester. Et souvent, c'est sur le point le plus sensible dans notre vie. C'est ce qui nous est particulièrement cher que là, Dieu intervient. La foi obéissante. Mais Abraham, Noé et d'autres ont osé faire confiance à la parole de Dieu, même si c'était difficile et compliqué. Et Dieu, bien sûr, ensuite les a bénis, les a honorés et ils ont obtenu la faveur de Dieu. L'autre aspect que j'aimerais souligner, c'est la foi conquérante. Autant il y a des périodes dans notre vie où Dieu nous demande de nous reposer sur lui, donc dans la confiance, la sérénité, autant il peut y avoir des périodes où Dieu nous dit « Allez, là, il faut y aller, il faut se bouger, tu ne peux pas rester tranquille comme ça sur ta chaise, il faut que tu avances, il faut que tu ailles plus loin. » Et parfois, Dieu fait appel à une foi dynamique, une foi vivante, que je qualifie de foi conquérante. C'est cette foi qui se cramponne aux promesses de Dieu et qui fait la recherche de l'accomplissement de ses promesses. Ça peut être dans le cas parfois de la guérison. Il y a des gens qui ont dû prier pour être guéris. D'autres en ont prié, à peine on avait fini la prière, ils étaient guéris. Ça existe. Et puis certains, il a fallu prier un an, deux ans, trois ans. Il a fallu prier plus longtemps. On ne sait pas pourquoi. On n'a pas l'explication. Dieu n'a rien expliqué. Mais celles et ceux qui ont eu cette foi conquérante ont fini par voir la fidélité de Dieu accomplir sa promesse. C'est vrai particulièrement dans la vie de l'esprit. Quand le Seigneur dit, ou la Bible dit, c'est Pierre qui le disait, « Repentez-vous, soyez baptisés, vous recevrez le don du Saint-Esprit », dit-il. Mais le verbe qui est traduit par « recevoir » a aussi le sens de « prendre ». Donc c'est une réception, mais une réception active. Je ne reçois pas dans mon fauteuil devant l'écran avec une télécommande à la main. Je ne reçois pas d'une manière passive. Je reçois parce que je recherche. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est ce que dit l'Écriture. Donc, il y a des moments où il faut se cramponner aux promesses de Dieu, dire « Seigneur, eh bien, je veux être rempli, moi aussi du Saint-Esprit, ou ça peut être un autre domaine. Je veux que cette promesse s'accomplisse dans ma vie. » Où je veux que mes enfants soient sauvés, je veux que ma famille soit sauvée, je me cramponne à cette parole, tu seras sauvé, toi et ta famille, et je m'appuie sur cette promesse et je mène la bataille. J'ai connu une jeune dame, il y a très longtemps de ça, elle ne doit plus être jeune maintenant, c'était à Agen. J'étais pasteur stagiaire, donc vous voyez, ça remonte. Et moi, je me trouvais à Villeneuve-sur-Lot, mais elle était à Agen, et j'étais passé faire une réunion à Agen, et elle m'avait raconté son expérience. Le pasteur d'Agen de l'époque, je ne me souviens plus qui c'était, je crois que c'était le frère Paul Calzada, avait fait donc des réunions qu'on appelle de recherche du baptême de l'Esprit, prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Alors, elle était toute jeune convertie, elle venait juste d'être baptisée dans les eaux, donc, et elle était toute motivée. Alors, elle assiste à cette réunion, elle prie, elle se place devant Dieu, elle s'était préparée au préalable et tout, et puis la réunion se termine, rien du tout. Alors, elle prend la voiture, elle est déçue, et en même temps, elle raccompagnait une personne plus âgée, une chrétienne plus âgée de l'église d'Agen. Et cette jeune sœur, lui dit son désarroi, son mécontentement quand même, le Seigneur aurait pu exaucer ma prière. Et la brave sœur qui était à côté dit, oh, attendez, moi ça fait je ne sais pas combien d'années que j'attends, ne soyez pas impatiente quand même, enfin, elle essaie de calmer ses ardeurs. Et cette jeune sœur lui dit, ah non, c'est ce soir ou jamais. Et alors elle dépose la sœur devant sa maison, puis elle rentre chez elle, et là elle va droit dans sa chambre, elle se met en prière, elle dit, non, Seigneur, c'est ce soir ou jamais, c'est pas possible, il faut que je sois rempli du Saint-Esprit, tu l'as promis dans ta parole. Et elle est restée un moment en prière, et tout à coup, elle s'est mise à parler en langue, le Seigneur l'a visitée. Et on connaît beaucoup d'expériences de ce genre-là, où il y a eu une foi conquérante, une foi qui est partie à la bataille en s'appuyant sur la promesse de Dieu. L'exemple biblique qui pourrait illustrer cette foi conquérante, c'est Monsieur Caleb, un certain Caleb, grand copain de Josué, j'allais dire, en tout cas de la même génération, un des seuls avec Josué qui est entré dans le pays promis, avec toute sur les 12 espions. Deux seuls sont entrés, Caleb et Josué. Et Caleb est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Il a dû accepter le comportement du peuple d'Israël, alors que lui, il voulait entrer, mais il a dû supporter donc, la désobéissance collective. Et il a ajouté 38 années de désert, donc 40 ans de désert. Et je pense que pendant ces 40 ans, on dit ouais, « c'est de leur faute, hein, c'est de leur faute ». Si seulement ils avaient pu croire, hein, et ils auraient pu en vouloir en permanence au peuple d'Israël et aux autres tribus. Dire quand même, ils auraient pu faire un effort. Voilà, maintenant, moi je serais peut-être dans une ville, j'aurais ma villa quelque part, et puis ma maison, et puis là on traîne dans le désert et on en a pour un moment. Non, Caleb n'était pas de cette trempe-là. Le temps a passé. Le peuple d'Israël a traversé le Jourdain, et lorsque les tribus d'Israël se sont retrouvées donc de l'autre côté du Jourdain, Caleb est allé voir Josué, et il a dit « Moïse m'a promis la ville d'Hébron, je la veux ». Il avait quand même 85 ans, et il disait qu'il avait la même vigueur à 85 ans qu'à 40, tout le monde ne peut pas le dire. C'est clair, tout le monde ne peut pas dire ça. Mais lui, il avait conservé sa vigueur et surtout, il avait conservé la vigueur de sa foi. Pas seulement la vigueur de ses muscles ou de ses articulations, mais il avait conservé la vigueur de sa foi. Il y croyait encore 45 ans après. Vous voyez ce que ça donne, 45 ans ? Attendre 45 ans ? C'est énorme dans une vie humaine, hein, 45 ans. Eh bien, Caleb s'est cramponné à cette promesse et Josué lui a dit, cette ville est à toi, tu la réclames, elle est à toi. Caleb est allé, il a mené la bataille et il a obtenu cette ville, elle est devenue sa propriété. J'ai lu un jour dans un livre du Pôle emploi, un livre de formation pour ceux qui voulaient retrouver du travail, cette petite phrase qui m'a toujours interpellé. Nous sommes aussi vieux que nos doutes et aussi jeunes que notre foi. Retenez ça. Hein. Nous sommes aussi vieux que nos doutes et aussi jeunes que notre foi. Et quand j'ai lu cette phrase, j'ai pensé à Caleb, qui, à 85 ans, eh bien, disait que finalement, il avait la même foi qu'à 40 ans. Il était aussi jeune que sa foi. Il y a des domaines dans la vie, dans la marche avec Dieu, où par moments, le Seigneur nous demande d'avoir une foi dynamique, une foi conquérante, une foi qui s'appuie sur ses promesses et qui cherche l'accomplissement de ses promesses. Et là, ce n'est plus la foi passive ou confiante, mais c'est une foi dynamique qui va au-devant de la promesse de Dieu et qui cherche l'accomplissement. Alors, c'est vrai particulièrement dans la vie de l'esprit, mais pas seulement dans ce domaine. Dans d'autres domaines de la vie chrétienne aussi. J'aimerais aussi souligner un autre aspect, c'est que j'appelle la foi courageuse. Eh oui, dans certains cas, la foi nous amène à devoir faire preuve de courage. Comme je disais hier, la vie chrétienne n'est pas toujours un fleuve tranquille. Et parfois, il y a de la houle. Parfois, le vent a tourné et il est en face, il vient de face. Et il faut rassembler toutes ses forces, ou le peu de force qui nous reste, pour faire preuve de courage. Et parfois, il y a des décisions qu'il faut prendre pour rester fidèle à Dieu, et des décisions qui appellent le courage. Et certains, pour n'avoir pas cette foi courageuse, restent où ils en sont, et au bout de quelques temps, on voit que tout part en déliquescence, ça va spirituellement, ça ne va plus, parce qu'ils ont loupé l'occasion où il fallait faire preuve de courage. Là, je vais prendre aussi des exemples bibliques, parce que c'est ce qu'il y a de plus parlant et qui illustre bien la pensée. Le cas d'Amram et Jochébed. Ah, c'est qui, Amram et Jochébed ? Les parents de Moïse. Amram, c'était le père de Moïse, Jochébed, la mère de Moïse. Ils sont cités dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Ils sont cités au verset 23, d'ailleurs. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et, alors j'aime bien la suite, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Pourtant, l'ordre de Pharaon était sévère. Il voulait éliminer tous les garçons des Hébreux. Il voulait les détruire. Vous savez qu'il a fait appeler les sages-femmes, en disant « c'est pas normal, je vous avais dit de faire mourir les garçons, vous ne l'avez pas fait ». Alors elles se sont sorties d'affaires à leur manière. Et il est dit que Dieu a béni les sages-femmes. Mais l'ordre est devenu général. Et après, tous les enfants des Hébreux qu'on trouvait, eh bien, il fallait les jeter au Nil. À l'époque, il n'y avait pas d'échographie. On ne pouvait pas savoir, quelques mois avant la naissance, si c'était un garçon, si c'était une fille. Les filles, pour Pharaon, ça ne posait pas de problème. Mais les garçons, oui. Imaginez ce couple, Amram et Jochébed, attendant la naissance d'un enfant. Je ne sais pas, il devait y avoir certainement une joie mêlée à une crainte ou une appréhension. Parce que si c'est un petit garçon, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis, eh bien, c'était un petit garçon. C'est un petit garçon qui a vu le jour. Et il est dit que la maman l'a caché. Ils l'ont caché pendant 3 mois. Et j'imagine que pendant qu'il était caché, devait faire attention à ce qu'il ne crie pas, à ce qu'on ne le voit pas, on ne l'entende pas, pour pas qu'il se fasse remarquer au cas où la police ou l'armée de Pharaon vienne et le fasse mourir. Mais au bout de 3 mois, il ne pouvait plus le cacher. Il grandissait, et vous connaissez l'histoire de Moïse. Il fallait du courage pour une maman. pour mettre son bébé dans une corbeille enduite de poids parmi les roseaux, parce qu'en plus c'est quand même risqué, hein, sur les bords du Nil, et de croire que Dieu va s'occuper du destin de cet enfant. Ils n'ont pas craint l'ordre du roi. Et parce qu'ils n'ont pas craint l'ordre de Pharaon, ils ont adopté une attitude extrêmement courageuse, mais qui a permis à Dieu de prendre en main le destin de ce petit enfant et d'en faire le prophète que nous connaissons, Moïse. Je dis ça pour les parents, parce que je crois que de plus en plus, nous sommes exposés, nous aussi, à des pédagogies et des choses qui, des valeurs que nous ne partageons pas. Et je pense qu'il va falloir de plus en plus que les parents fassent preuve de courage. David nous donne un exemple de courage quand il était adolescent et qu'il portait les fromages à ses frères qui étaient à la guerre, au front. Et pendant qu'il donnait, il remettait les fromages et les gâteaux de figues, voilà que tout à coup, un individu impressionnant sort des lignes de l'adversaire, des Philistins, et invective Israël, lance un défi. Tout le monde tremblait de partout, même les soldats de métier tremblaient en voyant cet homme, parce qu'il fallait, il demandait un combat singulier. Personne n'avait envie d'affronter Goliath, tant il était impressionnant. Et là, il y a ce jeune homme, cet adolescent intrépide, qui se dit, moi, je vais y aller. Je vais y aller. Ce n'est pas parce qu'il aimait le danger, mais il avait entendu les paroles de cet homme. Et il s'était dit, à cause de sa foi, cet homme ne peut pas vivre plus longtemps avec ce qu'il vient de dire. Il ne peut pas vivre plus longtemps. Et moi, je vais y aller en comptant sur Dieu. Et si Dieu m'a gardé des griffes de l'ours et de la gueule du lion, il me gardera certainement de Goliath. David, ce jour-là, a été animé d'une foi courageuse et Dieu a honoré sa foi. Vous savez comment, hein ? La pierre qu'il a lancée lui a tapé le front. Goliath est tombé à terre et David ne lui a pas laissé le temps de retrouver son esprit. Il a couru, il a pris l'épée et il l'a raccourci tout de suite. Hein, et c'était fini. Une foi courageuse. Alors bien sûr, quand on connaît la fin de l'histoire, on dit c'est facile, enfin, c'est bien. Gloire à Dieu, alléluia, alléluia, il a remporté la victoire. Mais quand il faut y aller, et qu'on ne sait pas comment ça va finir. Là, il y a un moment où on se pose des questions. Eh bien, David a été animé de la foi courageuse. On pourrait prendre les amis de Daniel, hein, au chapitre 3 du livre de Daniel, quand tout à coup, Nebuchadnezzar a eu un projet bizarre. Il a construit une grande statue et il a dit à tous ses cadres et ses fonctionnaires, vous allez venir sur la grande place, là où il y a la statue, et au son de la fanfare, de la musique, tout le monde se prosternera pour adorer la statue. Alors, je ne sais pas, la grande place de Montpellier, là. Voilà, imaginez, hein, cette grande place, une grande statue, et vous êtes là. Alors, il y a monsieur le préfet ou madame la préfète, je ne sais pas. C'est le préfet, monsieur le préfet, alors le président du conseil général, tous les cadres du département, vous voyez, tout le beau monde de l'Occitanie qui est là. Et au signal de la musique, ben, tout le monde s'incline. On ne veut pas de soucis, on tient sa carrière. On est financé par Nebuchadnezzar, on ne tient pas du tout à avoir des ennuis, on tient à garder son travail. Tout le monde s'incline. Mais imaginez-vous, là, si ça se passait à Montpellier, vous êtes au milieu de tout ce beau monde, et là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais ? Je me courbe ou je reste debout ? Et si je reste debout, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense qu'il y a un moment là où on s'interroge. On s'interroge. Et Donc, tous les gens se sont courbés au son de la musique. Et on a repéré, évidemment, trois individus qui, eux, n'ont pas voulu se courber. Et du coup, tout de suite, les réseaux sociaux se sont affolés. On a averti Nebuchadnezzar. On dit, oui, mais il y en a trois, là, qui font la forte tête. Ils n'ont pas voulu s'incliner au moment de la musique. Alors, Nebuchadnezzar, évidemment, les convoque immédiatement et il leur demande des explications. Et eux, ils ne bronchent pas. Ils auraient pu dire, bon, on va peut-être chercher un terrain d'entente. Peut-être qu'on peut négocier et qu'on peut trouver un arrangement entre nous. Non, non. Ils ont même été un peu provocateurs. Je dis, tu peux chauffer la fournaise, tu peux faire ce que tu veux, ça ne changera rien. Que Dieu nous délivre ou que Dieu ne nous délivre pas, on ne bougera pas. Fallait le faire. C'est facile à lire. C'est facile à lire, mais quand on se trouve dans la situation, c'est autre chose. Eh bien, ils ont osé le faire. Ils ont été animés de cette foi courageuse. Ils ont dit non à l'idolâtrie. Non, nous ne nous prosternerons pas devant une idole, même s'il en coûte notre vie. Et on sait comment Dieu a honoré la foi courageuse de ces gens-là. Il les a délivrés, ils ont conservé leurs cheveux. La Bible donne ce détail, c'est parce que s'il y a quelque chose qui brûle facilement, c'est bien les cheveux. Et il n'y avait même pas l'odeur du feu et de la fumée sur leurs vêtements. Un ange est venu à leur secours, etc. Vous connaissez ce passage. Alors on aime bien la fin de l'histoire, c'est évident. Dieu les délivre, Dieu les secours, gloire à Dieu, alléluia. Mais quand même, il fallait y aller. Surtout quand vous êtes entouré de toute l'administration, de tous les cadres du royaume, des trésoriers, des satrapes, des gouverneurs, tout ce monde-là, tout ce qu'on dit le beau monde, quoi. Ils étaient tous là, ils se sont tous courbés, sauf les trois amis de Daniel. La foi courageuse. Daniel lui-même a fait preuve de courage. Quand on l'a accusé à tort, et qu'on a poussé le roi à faire paraître un édit qui imposerait la prière adressée au roi pendant un mois. Et on visait bien sûr Daniel, qui lui priait trois fois par jour en direction de Jérusalem et le Dieu d'Israël. Quand Daniel a appris la nouvelle, il aurait pu dire, bon ben, il me reste des RTT, et un mois de vacances avec les RTT, je vais faire un tour quelque part et je reviens. Une fois que le mois est passé, c'est bon. Nous, Français, on est habitués à trouver des systèmes D pour sortir d'affaires. Et Daniel aurait pu chercher un système D en disant, ben oui, je vais prendre des distances, je vais changer de ville, je vais aller ailleurs et puis je reviendrai quand ça sera passé. Non, non, il a continué de vivre sa foi et sa piété avec régularité, linéarité, malgré l'édit du roi. Ce qui devait arriver arriva. Eh bien, on l'a pris en flagrant délit de piété. On l'a jeté dans la fosse aux lions, mais les lions n'en ont pas voulu. Ils ne l'ont pas mangé. Alors, certains, avec humour, disent « Oui, mais il était trop âgé. » C'est vrai qu'il avait de l'âge, Daniel, hein, à cette époque-là. Nous, on le voit dans les imageries de l'école du dimanche, on le voit jeune homme au milieu des lions, mais en fait, il était très âgé à cette époque-là. Si on regarde tous les règnes qui se sont succédés, il avait de l'âge. Mais quand on a jeté dans la fosse aux lions les ennemis de Daniel, tout à coup, les lions ont retrouvé l'appétit. Dieu a honoré la foi courageuse de Daniel. Et que Dieu fasse que nous soyons animés aussi de cette foi-là, cette foi courageuse. Alors ça ne veut pas dire qu'on a besoin de cette foi courageuse tous les jours et dans tous les actes chrétiens, mais il peut arriver que dans notre vie chrétienne, il y ait une étape prévue par Dieu dans laquelle ou au cours de laquelle Dieu nous demande de faire preuve de courage. Ça peut arriver. À ce moment-là, il ne faut pas avoir peur, mais au contraire, chercher les ressources qui sont dans le Seigneur et dans la grâce de Dieu. Sa grâce nous suffit. Alléluia. Et Dernier aspect, je l'appelle la foi-fidélité. C'est cette foi qui nous amène à vivre la communion avec Dieu, l'obéissance, etc. Mais d'une manière très linéaire. Même s'il y a un coup de vent, même s'il y a une tempête, même s'il y a quelque chose qui pourrait nous déstabiliser, ça ne change rien. Je continue ma foi. Il existe, et là c'est le pasteur qui parle, il existe parfois dans les églises des frères et sœurs qui sont un peu feu de paille. Alors quand ils font une expérience, il faudrait que tout le monde se convertisse. Vous les rencontrez une semaine après, il ne reste plus rien du feu de paille. C'est de la foi en dents de scie, en fonction de l'expérience. S'ils ont eu une bonne réunion, ça va mieux. Si la réunion a été moyenne, ça va mal, etc. Ça, ce n'est pas une foi linéaire, ce n'est pas une foi stable et solide, la foi fidélité. Dans l'assemblée de Lavelanet, nous avions un couple qui ont été d'ailleurs les premières pierres vivantes de l'église de Lavelanet, quand le frère Charles Gisquet a ouvert l'église. Ils étaient impressionnants. C'est un couple tranquille qui vivait sa foi et sa piété tranquillement, qui était engagé dans l'église et tout, jamais dans les histoires, ils se tenaient toujours à l'écart. Et quoi qu'il arrive, ils avaient toujours la même foi, la même stabilité, la même confiance. C'est précieux quand on a des frères et sœurs comme ça dans une église. Même quand l'église parfois est un peu ballottée, parce que ça arrive dans la vie de l'église, qu'il y ait des coups de vent aussi, ça arrive que parfois il y a une période un peu difficile, eh bien eux, ils continuaient à vivre comme si rien ne se passait. Et ça c'est précieux quand on a des frères et sœurs comme ça, qui ne se laissent pas emporter ou bousculer par le vent. J'appelle ça la foi fidélité, la foi linéaire qui continue sa marche, qui avance, quel que soit le contexte. Et là, on a un bel exemple dans le Nouveau Testament, c'est l'exemple de Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste. C'est au début de l'évangile de Luc, au chapitre 1. Toute l'histoire nous est racontée de la naissance de Jean-Baptiste. Et il nous est dit de Zacharie et d'Élisabeth, ceci c'est Luc 1, donc versets 6 et 7. Tous deux, mari et femme, donc, tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et ils observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants et on sent bien que c'est là le fardeau qui pèse. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous les deux étaient déjà très âgés. J'imagine qu'ils avaient prier pour avoir des enfants, probablement, car dans la culture de l'époque et du Moyen-Orient, pour une femme ne pas avoir d'enfants, c'était suspect. Il devait y avoir un problème entre Dieu et elle. Ça ne devait pas être très clair dans la relation entre cette femme et Dieu. C'était toujours suspect. Et Élisabeth a passé toute sa vie avec ce fardeau. Elle était avancée en âge, nous est-il dit. Eh bien, même si Dieu n'a pas exaucé leur prière, même si Dieu n'a pas fait ce qu'ils étaient en droit d'attendre de la part du Seigneur, de sa grâce et de sa générosité, Zacharie et Élisabeth ont mené leur vie de foi d'une manière irréprochable. Ils n'ont pas chercher à négocier avec Dieu ou à mettre quelque chose dans la balance pour obtenir. Non, non. Ils ont continué à vivre leur service, leur consécration, leur marche avec Dieu. Et un jour, Dieu les a honorés. Puis c'est à la fin de leur jour, vous imaginez, Élisabeth qui a un âge avancé, elle a dû se dire, non, Seigneur, toutes les nuits qui vont être gâchées. Ah, Seigneur, il va falloir que je me mette à pouponner maintenant, à mon âge. À 25 ans, c'est une chose. À 80 et quelques années, c'est autre chose. Mais Dieu a honoré la foi linéaire donc, et stable de Zacharie et d'Élisabeth. Même si nous ne vivons pas des grandes choses parfois ou des grands réveils, on a lu dans les livres, même si nous ne voyons pas des choses spectaculaires, extraordinaires, Dieu nous appelle à vivre d'une manière fidèle, linéaire et stable la foi qui est dans notre cœur, la foi que nous avons mise dans sa parole, dans ses promesses. Dans le livre d'Habacuc, il est dit « Mon juste vivra par la foi ». Vous connaissez bien cette phrase. Mais je fais une petite remarque. Les commentateurs qui parlent de ce verset disent que là, le mot qui est traduit par foi, ou par, on pourrait le rendre par fidélité d'ailleurs, ce mot-là a le sens de solidité, de constance et de probité. Mon juste vivra par la foi, c'est-à-dire par une foi constante, une foi solide, une foi enracinée dans l'Écriture et qui ne bouge pas. Quand les gens m'ont interrogé, donc, comme je disais tout à l'heure, lorsque je suis sorti de l'hôpital, tout le monde s'était intéressé à mon cas, le président du CNEF qui avait été malade et qui a failli mourir, donc même les journalistes s'intéressaient à mon cas. Et un journaliste a posé la question, mais pas que, même des collègues m'ont dit « Est-ce que tu as eu peur ? Est-ce que tu as eu peur ? Non, non. Est-ce que tu t'es remis en question ?» Parce que d'autres se sont remis en question. J'ai dit « Non, non, pas du tout. Au contraire, dans ces moments-là, eh bien, la Bible est devenue, comme, elle a pris forme en moi, elle est devenue comme s'écrivant dans mon corps. Hein, comme, c'est assez difficile à expliquer. C'est plus un livre qui est à l'extérieur de moi, c'est plus une parole que j'étudie ou que je cherche, c'est comme si elle était écrite dans ma chair. Hein. C'est quelque chose de particulier à vivre. C'est comme si j'avais vérifié les promesses de Dieu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et ce n'est plus un verset que je récite par cœur. J'allais dire que ce verset, il est écrit dans mes muscles, il est écrit dans mon corps, il est écrit dans ma chair. C'est étonnant, mais voilà, j'ai traversé tranquillement la tempête en continuant à faire confiance à Dieu. Voilà donc différents aspects de la foi. J'ai fait comme font les Orientaux. Vous savez que les Orientaux n'ont pas la pensée linéaire comme les Français. Ils ont ce qu'on appelle la pensée circulaire, c'est-à-dire quand ils étudient un sujet, ils font le tour du sujet. Voilà. J'ai voulu faire avec vous le tour du sujet de la foi ce soir. Et selon l'angle sous lequel on regarde la foi, eh bien, on peut être amené à voir la foi, donc dans la foi, je disais, confiante, donc, qui se repose sur Dieu, mais on peut voir sous un autre angle la foi obéissante qui nous appelle à relever le défi, à faire confiance à Dieu et à obéir, même si ça nous paraît un peu difficile. Et puis, donc, sur un autre angle, on va voir la foi conquérante. Il y a une promesse de Dieu. On veut s'en emparer. On veut voir Dieu accomplir dans notre vie sa promesse. J'ai pas cité tout à l'heure cet exemple, mais il me vient à l'esprit. Nous avons baptisé une fois une sœur en Andorre, la principauté d'Andorre, puisque c'est pas loin de chez moi. Et cette sœur fumait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on avait prié pour elle et elle était toujours pas délivrée. Et un jour, elle s'est dit, non, c'est pas possible, il faut que j'y arrive. Alors elle a décidé de jeûner et prier toute seule chez elle. Elle a été délivrée. C'est ça la foi conquérante. Elle dit, je le veux, je l'aurai. Voilà, je veux cette victoire. Et puis sous un autre angle, c'est la foi courageuse. On peut se retrouver dans des situations où il faut faire preuve de courage. Il y a un texte dans le livre des psaumes, j'ai plus en tête la mémoire, hein, j'ai plus en tête la référence, je crois que c'est psaume 27, j'en suis pas sûr, où il dit « Sois fort, attends-toi à l'Éternel et sois fort ». Et il y a parfois des situations où Dieu nous demande d'être fort tout en nous attendant à lui. Et enfin, la foi fidèle, stable, solide, qui continue son chemin, quoi qu'il arrive. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de foi. C'est ce que Jésus a dit à Thomas. Vous savez que Thomas avait des problèmes avec la résurrection et du mal à y croire, et il lui fallait des preuves. Et quand Jésus lui a donné les preuves, il lui a dit « Cesse d'être incrédule et crois ». et une version a traduit « soit un homme de foi ». Thomas, soit un homme de foi. Il peut y avoir beaucoup de choses, beaucoup de questions qui se posent dans notre esprit, mais il y a des moments où Dieu nous dit « allez, sois un homme de foi, sois une femme de foi, parce que si je suis le cap, au bout, c'est l'héritage de la gloire éternelle, c'est le partage de la gloire et de la félicité, c'est vers là que nous allons, la cité éternelle qui nous a été promise, et entre cette cité et aujourd'hui, eh bien, il faut garder le cap. Parfois, il faut du courage, parfois, il faut de la sérénité, de la confiance, parfois, il faut mobiliser ses forces et y aller courageusement, ou parfois, il faut vivre sereinement la vie chrétienne et continuer quoi qu'il arrive. Que le Seigneur nous aide les uns et les autres à avoir cette foi de qualité-là. On parlera demain soir des tests, pas Covid-19, mais ce que Dieu veut chez nous, c'est une foi de qualité. Ce n'est pas une foi qui est de slogan, vous savez, des belles paroles, les beaux versets bibliques, tout ça. Non, non, Dieu a besoin de voir si ça tient vraiment, si c'est du solide. Et pour cela, Dieu a prévu un programme pédagogique. Il a prévu des cours, il a prévu une école. Et il y a différentes écoles, et dans certaines écoles, il nous apprend une chose, dans d'autres cours, il nous apprend autre chose. Et il faut accepter les écoles du Seigneur, et dans la mesure où on accepte que le Seigneur nous éduque au travers des circonstances, j'allais dire que par la vie, les circonstances de la vie, eh bien, notre foi s'enracine, notre foi se fortifie, notre foi se cramponne au Seigneur et elle devient plus mature et elle ne repose plus sur une émotion ou sur juste un bon moment. Elle est plus profonde que cela. Mais c'est tout un travail pédagogique que le Seigneur accomplit. On verra ça demain soir. Je dis ça pour que vous reveniez demain soir. On termine en priant le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux de te connaître. C'est vraiment un privilège. Ton amour nous a bouleversés, il nous a confondus, mais il ne nous a pas écrasés à tout jamais. Au contraire, nous nous sommes sentis accueillis, Seigneur. Tu nous as ouvert ton ciel, mais tu nous as ouvert ton cœur, tu nous as ouvert tes bras. Tu nous as accueillis comme des fils et comme des filles, alors que nous ne le méritions point. Tu nous as appelés, Seigneur, dans ton amour, à te rejoindre. Tu nous as appelés à te faire confiance, à croire ta parole, à croire tes promesses, même lorsque parfois ça nous dépasse complètement, que ça sort de nos raisonnements, de nos équations. Tu nous appelles à te faire confiance. Seigneur, tu vois, nous avons médité ce sujet ce soir et nous te prions pour que cette méditation puisse marquer nos cœurs, marquer nos pensées, que nous puissions retenir ce que tu attends de nous, Seigneur, de la stabilité, de la linéarité, du courage parfois, ou peut-être un acte d'obéissance, ou simplement être dans une position de confiance totale. Seigneur, aide-nous à vivre ces choses, aide-nous à bien les vivre, et nous te prions pour que notre foi grandisse, car nous savons que notre foi, au bout du chemin, elle doit contribuer à ta gloire. Et nous voulons, Seigneur, qu'en arrivant au bout du chemin, en nous présentant devant toi, nous puissions figurer parmi ces témoins de la foi, dont la foi te glorifie et t'honore. Seigneur, continue le travail que tu as commencé en nous. Nous croyons que tu es fidèle et tu sauras le mener jusqu'au bout. À toi la louange, la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen.